Bonjour, je suis Aurore et je vous accueille sur Doula Lire, le premier podcast qui vous donne la connaissance pour faire vos choix. En ce moment, entre les violences gynécologiques, le sous-nombre de sages-femmes et autres, il peut très vite nous manquer de connaissances pour faire des choix éclairés et de temps pour tout lire. Le savoir, c'est le pouvoir. Je vous propose donc des résumés de livres pour vous aider à choisir vos accompagnants de papier si besoin est. Ceux sur qui vous pourrez compter pour la grossesse, l'accouchement, le postnatal, mais aussi pour la conception, l'adoption ou le deuil. Grâce à eux, vous serez, je l'espère, légitime et serein dans vos choix. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue chez Doula Lire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir lu pour vous en avant-première et de vous présenter ce livre le jour de sa sortie. Il s'agit des « Mémos illustrés de l'accouchement » de Eve Achour aux éditions Mama Édition. Eve Achour est doula, mais à la base, elle était graphiste. Et c'est lors de sa première grossesse qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait s'épanouir dans un autre monde, celui de la périnatalité. Elle s'est donc formée pour devenir doula. Il s'agit donc de son premier ouvrage. Il a été difficile à synthétiser puisque c'est déjà une très bonne synthèse à lui tout seul. C'est un livre qui se présente donc en mémo, avec beaucoup de croquis et finalement assez peu de mots. Alors je vais faire de mon mieux. Elle nous parle donc de la péridurale avec ses effets positifs, négatifs, le pourquoi du comment, le comment ça se pose aussi, ce qui est assez rare, et le mémo rend ça assez fluide. En tout cas, on comprend bien les tenants et les aboutissants de la péridurale et comment la poser. L'épisiotomie vs la déchirure. Elle en parle super bien. Alors, en fait, en soi, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que le corps humain, il est fait pour déchirer. Il n'est pas forcément fait pour se voir bistouriquer, dirons-nous. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les études montrent qu'il y a une meilleure cicatrisation après une déchirure plutôt qu'après une épisiotomie. Les douleurs ne sont pas du tout les mêmes non plus. Elle parle d'ailleurs, au niveau du chapitre du postpartum, des soins de l'épisiotomie. Donc c'est assez complet sur ce sujet-là. Elle déconstruit un mythe. Je l'ai tellement entendu par les mamans que j'ai accompagnées récemment. L'accouchement commencerait toujours par la rupture de la poche des os. Non, l'accouchement ne commence pas par la rupture de la poche des os en général, puisque cela ne concerne que 8% des accouchements. C'est quand même très très peu. Elle explique le chemin du bébé, celui qu'il aura à parcourir pour descendre tout le long de l'utérus, du vagin, etc. En croquis, c'est assez fou. On voit bien le bébé qui doit d'abord descendre dans le bassin, qui doit ensuite se tourner, qui doit ensuite incliner le menton vers le sternum pour pouvoir présenter la partie de sa tête qui a le diamètre le plus petit, afin de faire le minimum de mal à sa maman et que ça soit le plus fluide possible. On voit qu'après cela, il va réussir, en s'inclinant, en s'arc-boutant, à sortir la tête. Et là encore, c'est pas fini. Il faut encore qu'il tourne la tête pour réussir à faire sortir tout le reste. Il a un gros travail à faire et c'est pas forcément facile. Pour vous dire, il a, avec des gros guillemets, mais tellement pas de place dans le bassin que les os de son crâne qui ne sont pas encore soudés vont se chevaucher pour qu'il puisse descendre. Elle réexplique les rôles de l'ocytocine et de l'endorphine, etc. Et en schéma, c'est tout de même beaucoup plus facile à voir que ce sont des hormones très complémentaires, mais qui ne peuvent pas se remplacer l'un l'autre et que techniquement, on ne peut pas vraiment remplacer. Il y a des alternatives, mais on ne peut pas les remplacer. Elle parle super bien des boosters d'ocytocine, donc tout ce qui va être les stimulations sexuelles, les plaisirs, quels qu'ils soient, hein, ça va être prendre un bain, aller se balader en forêt, si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais également toute la préparation avant accouchement, les exercices et le repos. Les exercices, ça va être des fois tout bêtement d'aller faire son ménage au grand complet, d'aller se balader. Elle reprend une expression que j'aime beaucoup, mais une maman est prête à accoucher quand elle n'en peut plus d'être enceinte et qu'elle, si elle le pouvait, elle le ferait sortir par les yeux. Elle rappelle cependant l'importance du repos. C'est important pour une maman qui va accoucher de se reposer, de prendre soin de soi. de prendre des bains, de s'allonger, de faire des siestes chaque jour à partir de la 37e semaine. Parce qu'en fait, c'est à double tranchant. L'accouchement, c'est un marathon, donc il va nous falloir beaucoup d'énergie et on va la prendre avant. Et en même temps, c'est une longue vague. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas besoin de faire, mais surtout d'être et de ressentir. Il n'empêche que ça demande pas mal d'énergie. D'ailleurs, elle parle également de toutes les petits tips pour la préparation, avec de l'homéo, avec de l'acupuncture, de manger 5 dattes par jour. Il y a pas mal d'études qui le montrent, ça. Je vous laisserai les retrouver dans le livre. Elle parle aussi des préparations à l'accouchement, tout ce qui va être l'aptonomie, etc. L'avantage pendant l'accouchement et juste après l'accouchement de la relation avec son bébé dans l'aptonomie. Elle décrit très très bien les phases de travail. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est rare de le voir autrement que dans des livres pro-médicaux. Et elle les rend vraiment accessibles. Alors, globalement, il peut y en avoir 9. La phase de pré-travail, globalement, ça inclut de la 36e ou 38e semaine jusqu'au jour de l'accouchement. Et à ce moment-là, le col peut s'ouvrir jusqu'à déjà 4 cm. C'est-à-dire que vous pouvez arriver le jour de votre accouchement en ayant pris de l'avance, ce qui est quand même assez sympa. C'est comme si votre prof vous disait, bah, écoutez, si vous voulez, je vous donne un exercice du DS à faire à la maison, comme ça vous aurez déjà la moitié des points. C'est plutôt tranquille. Enfin, tranquille. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Il y en a pour qui le pré-travail n'est absolument pas tranquille. Ensuite, il y a la phase de latence, le milieu, le on ne sait pas, est-ce que ça se lance, est-ce que ça ne se lance pas. C'est le fameux moment où les mères vont aller prendre un bain et révélation, ça calme les contractions ou ça ne les calme pas. La phase de travail actif, durant laquelle le col va encore s'ouvrir jusqu'à 6-7 cm, et qui est une phase où les contractions se font de plus en plus douloureuses, etc. La phase de toute puissance. La phase de transition, où le col va encore s'ouvrir jusqu'à 8, 9, 10, souvent c'est la dernière phase. La phase nommée de désespérance, c'est vraiment la fin. Ça s'approche, mais c'est pas forcément les plus agréables. C'est souvent à ce moment-là qu'il va y avoir des personnes qui vont craquer, elles ne voulaient pas la péridurale, puis finalement elles vont la prendre. Et en fait, 15 minutes plus tard, elles vont commencer l'expulsion. La latence du deuxième stade, alors la latence du deuxième stade, elle est normal, physiologique, mais tout le monde ne l'a pas. La latence du deuxième stade, c'est quand le col est bien dilaté, il est complètement dilaté, il n'y a pas de souci, mais il faut du temps au bébé pour descendre du col jusqu'au vagin et aller jusqu'au couronnement, c'est-à-dire aller présenter la partie de son crâne qui a le diamètre le plus petit au travers de la vulve. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir bah, l'expulsion avec la naissance. Et puis la rencontre, c'est finalement le moment que tout le monde attend, avant d'entamer la dernière phase qui est la délivrance. Alors il y a des phases obligatoires, hein. La phase de la naissance et la phase de la délivrance, même sur une césarienne, elles y sont. Il y a un moment où on fait sortir le bébé, on fait sortir le placenta. Elle parle surtout du fait que connaître ces phases et les comprendre, c'est gagner de la confiance en soi. On ne va pas être perdu, ça permettra à une maman de se dire, ok, là il y a ça, ok, bah, je dois être au moins entre cette phase-là et cette phase-là, et ça va, je sais où j'en suis, et du coup, c'est bon, j'ai confiance en les autres, j'ai confiance en moi, et c'est le plus important, la confiance en soi lors de son propre accouchement. Ça permet également de beaucoup mieux déterminer le bon moment pour partir à l'hôpital. Alors, il y a toujours des femmes qui ont de la chance ou de la malchance, ça dépend les points de vue, mais finalement, qui vont pas ressentir leurs contractions ou ne vont avoir vraiment aucune douleur, qui du coup vont finir par accoucher chez elles. En ananas inopiné, c'est pas de chance, ou c'est de la chance, ça dépend. L'absence de douleur peut aussi être intéressante, mais tout existe. Un gros gros chapitre sur les outils pendant la naissance, qui est très intéressant. Notamment, elle présente les nombreux types de respiration qui existent, tout ce qu'on peut apprendre comme respiration. Les sons, avec le chant prénatal par exemple, avec notamment le son Om, qui... En fait, s'il est aussi répandu dans d'autres religions, donc les monistes, les bouddhistes et les hindouistes notamment, c'est parce qu'il fait vibrer le corps entier. Et notamment, il fait vibrer aussi le col quand on va le prononcer, mais aussi quand les autres vont prononcer autour de soi. Ça marche globalement avec tous les sons graves. Hein. Donc vous pouvez y aller, mais Om, c'est le plus connu. C'est pas de chance, ou c'est de la chance. Débrouillez-vous. Elle parle des différentes positions, ça permet quand même de bien déconstruire le mythe de accouchement sur le dos dans les étriers. Et elle parle des accessoires, alors le plus connu étant la liane, Alors, c'est un morceau de tissu, une corde, une chaîne, ce qui pend de votre plafond ou du plafond de l'hôpital, à laquelle on va pouvoir se pendre, littéralement, hein, des deux mains, pour pouvoir ne pas avoir le poids qui repose sur les jambes et pouvoir libérer le bassin, mais bien sur les bras. Alors, ça demande quand même une bonne force physique, mais les mamans la trouvent, en fait, le jour de l'accouchement. Elles l'ont, cette force physique. Le deuxième, le plus connu aussi, c'est le ballon, qui permet de ne pas se sentir trop assise et du coup de continuer à travailler le bassin en position assise. Elle met un point d'honneur à réexpliquer l'ambiance avec le fait qu'il faut que ce soit une lumière tamisée, qu'on peut amener sa propre musique, amener une veilleuse si on sait que l'hôpital n'a pas possibilité d'avoir autre chose que les grands néons blancs. Amener une veilleuse, ça peut sauver un accouchement dans ces cas-là. L'importance des personnes présentes, la maman souhaite qu'ils soient présents. C'est important que ce soit le choix de la maman. Elle a une sensibilité particulière, elle a son instinct maternel qui se réveille, elle le sait, elle le sentira. Et c'est vraiment pas un moment où il faut se dire, ah oui, mais s'il n'est pas là, il va m'en vouloir parce que c'est moi qui l'ai fait sortir. Ouais, n'empêche que si ça bloque l'accouchement, ce sera pas forcément mieux. Si c'est vous qui lui en voulez parce que finalement ça tourne en césarienne, je suis pas convaincue que ce soit bénéfique. Elle parle du projet de naissance, et ça c'est important parce que malheureusement on le voit dans peu de livres. Alors en même temps, jusque-là, je vous ai présenté beaucoup de livres de sages-femmes. Ce n'est pas les sages-femmes qui font les projets de naissance, c'est plutôt les parents. Donc ça s'explique. Mais il est important dans le projet de naissance surtout de se mettre d'accord déjà avec son conjoint. Est-ce qu'on veut un accouchement physiologique? Est-ce qu'on veut un accouchement plutôt péridural? Est-ce qu'on veut une césarienne programmée? Ça c'est dans le projet de naissance. Mais est-ce que dans la césarienne programmée, on veut la lumière tamisée? Est-ce qu'on veut... Alors, la lumière tamisée, franchement, dans la césarienne, va falloir vraiment vous battre, je pense quand même. Mais c'est pas grave. Mais il n'empêche que même dans la césarienne programmée, il existe plusieurs choses. À l'heure actuelle, il existe l'hypnose qui permet de vivre la césarienne comme un accouchement. Il va exister également la poussée. En fait, lors d'une césarienne, soit ils vont chercher le bébé, soit ils incisent et la femme peut pousser au sens strict du terme et son bébé va sortir. Donc, il existe plein plein de choses à mettre dans son projet de naissance. Pour ça, je vous conseille de lire ce livre. Le dernier chapitre que je voulais vous présenter, c'est le chapitre du postnatal, qui est hyper complet. J'adore ce chapitre. Elle va nous parler des douleurs des tranchées. Les tranchées, c'est des règles, très globalement, mais en très fort quand même. C'est-à-dire que pendant vos règles, vous éliminez l'endomètre qui a été construit pendant un mois. Ok, là, vous allez éliminer l'endomètre qui a été construit pendant 9 mois et qui a une taille de pastèque et non pas de figue, pour reprendre les comparaisons de Vachaud. Donc, ça demande beaucoup plus de muscles, ça demande beaucoup plus de force, et forcément, ça fait beaucoup plus mal. D'ailleurs, elle explique dans le chapitre sur l'allaitement les bénéfices de l'allaitement sur les tranchées, qui font que l'allaitement permettant de diffuser des ocytocines dans le corps, ça agit également sur les douleurs en les diminuant, voire en les supprimant, mais pas chez tout le monde. Les loquies, alors les loquies, c'est littéralement les saignements qui vont suivre l'accouchement, et c'est exactement ça, c'est l'endomètre qu'on élimine. Elle en parle bien, sachant que globalement les loquies, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois, c'est vraiment variable d'une femme à l'autre. Elle explique les soins à donner à la césarienne après, donc à la cicatrice de la césarienne, mais également les soins à donner après une épisiotomie, si vous en avez une, les soins à donner aux hémorroïdes. Elle parle de l'œuf de Yoni. C'est une pratique qui est encore très peu répandue. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. En soi, il y a d'autres alternatives en plastique et c'est très bien aussi. Il y en a pour tous les goûts. L'œuf de Yoni, c'est une pierre semi-précieuse, souvent. On va partir sur du quartz ou de la jade. Et un œuf de Yoni, ça a une taille variable. Souvent, c'est vendu sous 3 tailles différentes. Donc, chacun choisit. Après un accouchement, souvent, il va s'agir plutôt d'une grande taille. Et l'œuf de Yoni, en fait, il va avoir plein de bénéfices, notamment aider à la remise en forme de son vagin, parce que de même, il va aller stimuler les contractions vaginales pour reprendre sa place. Elle rappelle cependant l'importance de l'hygiène de ce genre d'objet, mais précise quand même que ça permet de se reconnecter à son propre corps, ce qui peut être vraiment très intéressant. Notamment, ça ne demande que quelques minutes par jour. Alors, c'est énorme, hein, quelques minutes par jour en postnatal, je ne dis pas. Mais ça permet de se reconnecter à soi quand on est surtout centré sur son bébé. Elle parle du soin rebozo, donc ce soin ancestral qui vient d'Amérique latine et qui est offert à la femme pour l'honorer d'avoir donné la vie en postnatal. souvent donnée par soit la sage-femme là-bas, soit des membres de sa propre famille. En fait, le mot rebozo, ça vient du tissu qui est utilisé. C'est comme un châle ou une étole, une écharpe. Là-bas, c'est quelque chose qui sert à tout, en fait. Ça sert autant à porter bébé que à ce soin rebozo, que à aller chercher les fruits au champ, porter en bandoulière, etc. Notamment, la partie qui est la plus centrale dans ce soin, ça va être le resserrage du bassin qui va permettre d'accompagner les os dans leur remise en place. Et ça se fait tout en douceur, même si ça demande beaucoup d'énergie aux masseuses. Idéalement, il peut être proposé juste après l'accouchement, mais jusqu'à bien après, en fait. Vous le faites bien quand vous voulez. Là-bas, ils le font 3 fois dans les 1 mois de vie du bébé. Elle parle du baby blues. Alors, c'est assez chouette parce que souvent, les livres font un peu l'impasse sur ce qui est négatif. Or, le baby blues, ça existe et c'est important d'en parler. Et de l'impact positif ou négatif des visites. C'est-à-dire que le baby blues et puis des visites qui passent et qui vous disent « Oh, mais quand même, t'as un beau bébé, faut pas pleurer. » Ce n'est pas aidant du tout. Alors que des visites qui vous disent juste qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qui vous amènent un plat à manger, ce sera tout de même très agréable. Et ça permettra aussi de diminuer un peu le baby blues parce que ça fera une chose à faire en moins pour la maman qui n'a pas vraiment besoin de cuisiner. Elle reprend donc la notion importante du village avec l'importance d'avoir un village autour de soi quand on vient d'accoucher. En France, il existait les relevailles. Les relevailles, c'était les 1 mois après le bébé pendant lequel il n'y avait pas de tâches pour la maman et pas de sexe pour la maman. Après cela, elle reprenait sa vie. C'est quelque chose qui existe encore en Afrique, en Amérique latine et en Asie, dans les pays les moins touchés par l'occidentalisation et le mondialisme, dirons-nous. Et c'est encore quelque chose qui est très présent. Le fait qu'une maman, finalement, elle est reine pendant 1 mois après son accouchement. En soi, elle est reine, ça l'empêche absolument pas de consacrer toute sa vie à son nourrisson. Et c'est pour cela que les autres autour d'elle lui consacrent un peu d'attention. C'est parce qu'en fait, elle en a besoin. Normal. Dans ces cultures-là, je vous invite à recréer votre village, vous aussi, avant d'accoucher. Alors, il va s'agir d'une explication d'illustration. Pour cela, je me suis mise d'accord avec Eva Chour, pas de panique. Et j'ai choisi, du coup, de vous aborder le thème de l'utérus, qui prend quelques pages dans le livre. Il faut savoir qu'au début de la grossesse, l'utérus a la taille d'une figue et qu'à la date du terme, l'utérus a la taille d'une grosse pastèque. Ce qui fait de lui l'organe qui subit le plus de déformations durant ses 9 mois. Il va ainsi contenir l'embryon, puis le fœtus avec son placenta, leur cordon ombilical et leur poche remplie de liquide amniotique. En bas, il est fermé par le col de l'utérus jusqu'à l'accouchement. Au troisième trimestre, un tissu musculaire complexe va se créer autour de l'utérus. Il va en effet se parer de muscles longitudinaux, donc à la verticale, de muscles transverses, donc à l'horizontale, et de muscles obliques, donc en diagonale. L'utérus devient ainsi le 8e muscle le plus puissant du corps humain. Durant l'accouchement, les muscles fraîchement créés tirent le col vers le haut et poussent bébé vers le bas. C'est pour cela que l'accouchement est si intense. Au fil des contractions, le col va se ramollir, puis s'effacer, et enfin, s'ouvrir. Voilà, il est temps de se quitter. Je vais vous faire mes derniers petits points. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, il est tombable en 1 heure à peine. C'est très simple, c'est très fluide. Les connaissances, elles sont acquises vraiment facilement. Le vocabulaire, il est simple. C'est pas plein de détails médicaux. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est simple, c'est clair. Les chapitres abordent vraiment tous les sujets. Alors, j'ai pas parlé de l'allaitement, des acupressions pendant l'accouchement, etc. Mais ça aborde vraiment le prénatal, la naissance et le postpartum dans son intégralité. Après, si on recherche des précisions vraiment importantes sur une hormone ou quoi, c'est pas le bon livre. Mais pour tout le reste, vraiment, pour donner un ordre d'idée à une première maman, à une maman qui a mal vécu son premier accouchement et de qu'est-ce qui est possible pour la suite et du pourquoi, du comment, c'est vraiment idéal. Il y a un peu de spiritualité, pas mal de propositions de rituels. À voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. C'était Aurore Lebecq sur D'où la lire. Je vous ai présenté des mémos illustrés de l'accouchement de Eva Chour aux éditions Mama Édition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, voire à le noter. Toute note m'aidera à le faire connaître et à donner les clés à de plus en plus de femmes enceintes. Et à très bientôt!